Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Comme vous le savez, il y a quelques semaines, nous avons achevé notre étude dans la merveilleuse épître de Jude, qui se termine par la promesse que Dieu est capable de nous garder de toute chute et de nous présenter sans défaut devant sa présence, avec gloire, puisque cela nous présentait la magnifique doctrine de la sécurité éternelle, ou, pour mieux dire, de la persévérance des saints, ou de la conservation des saints. Nous avons passé quelques semaines à parler de cette doctrine, et dans les discussions que j'ai eues avec vous à ce sujet, j'ai dit que la fin était déterminée par le commencement. Notre salut est sûr jusqu'à la fin, parce que notre salut était prédestiné dès le commencement à être achevé complètement. Et nous nous souvenons que Romains 8 fait une déclaration monumentale et très claire à cet effet, lorsqu'en Romains 8, l'apôtre Paul écrit « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. » C'est-à-dire, ceux que Dieu a prédestinés deviendront conformes à l'image de son Fils dans la gloire éternelle. Ainsi, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Ainsi, nous avons dit que la grande vérité fondamentale de base qui assure notre avenir est le décret de Dieu dans l'éternité passée. C'est le fait que nous sommes choisis pour le salut final, qui rend sûr notre salut. La doctrine de l'élection est une doctrine troublante pour bien des gens. Elle est décrite et présentée ainsi, comme si quelque part elle remettait en question la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. En fait, des phrases littéralement choquantes ont été prononcées au sujet de cette doctrine par d'éminents évangéliques. Par exemple, le bien connu Tim LaHaye, qui est l'auteur d'une partie de la série Left Behind, Les survivants de l'Apocalypse, et de beaucoup d'autres livres. Tim dit « Suggérer que le Dieu miséricordieux, lent à la colère, gracieux et aimant de la Bible, inventerait une doctrine aussi horrible que celle-là, la prédestination, qui voudrait nous faire croire que c'est un acte de la grâce de sélectionner certaines personnes pour le ciel et en exclure d'autres pour l'enfer, s'approche dangereusement du blasphème. Ce sont des déclarations que ces messieurs ont imprimées noir sur blanc. Arnaud Freudze, d'une autre œuvre chrétienne, écrit « La théologie défectueuse de la présélection, c'est ainsi qu'il l'appelle, est une tentative d'éliminer la capacité de l'homme d'exercer son libre arbitre, ce qui réduit l'amour souverain de Dieu à l'acte d'un simple dictateur. » Un autre pasteur, auteur et enseignant à la radio, dit « Cette doctrine fait paraître notre Père Céleste comme le pire des despotes. » Un autre encore, président de l'Université Texas Holiness, dit « Cette doctrine est le schéma théologique le moins raisonnable, le plus incongru, le plus contradictoire, le plus dégradant pour l'homme et le plus déshonorant pour Dieu, qui soit jamais apparu dans la pensée chrétienne. Personne ne peut accepter ces propositions contradictoires, s'excluant mutuellement, sans se rabaisser intellectuellement. Il soutient un tyran égocentrique, égoïste, sans cœur, sans remords, en lieu de Dieu, et nous demande de l'adorer. » Un pasteur de Calvary Chapel écrit « Le calvinisme en 5 points, qui évidemment comprendrait la doctrine de l'élection, fait de Dieu un monstre qui torture éternellement des enfants innocents. Il retire l'espérance de consolation de l'Évangile. Il limite l'œuvre d'expiation de Christ. Il résiste à l'évangélisation. Il soulève des argumentations et des divisions et met en avant un Dieu petit, fâché, légaliste, au lieu du Dieu au cœur large de la Bible. » Quelqu'un d'autre dit « Dire que Dieu choisit souverainement qui va être sauvé est la chose la plus tordue que je n'ai jamais lue, qui fait de Dieu un monstre, pas mieux qu'une idole païenne. » Un autre site web d'étudiants théologiques au Canada dit « Cette doctrine fait de Dieu un monstre diabolique et réduit l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu, à n'être qu'un simple robot, et Dave Hunt, que beaucoup de vous connaissent, qui a écrit tant de livres utiles, dit « La fausse représentation que cette doctrine donne de Dieu a fait que beaucoup se sont détournés du Dieu de la Bible, comme d'un monstre. Ainsi, le mot-clé de tout cela semble être le monstre. C'est un peu comme si cette doctrine de l'élection transformait Dieu en un monstre. Or, ces déclarations concernant cette doctrine sont plutôt graves, mais elles représentent une grande partie du monde évangélique. Et nous ne parlons pas d'illettrés. Nous ne parlons pas de ceux qui n'ont qu'une connaissance limitée. Nous parlons de gens qui sont des conducteurs spirituels, de pasteurs et d'écrivains. Et pourtant, cette doctrine est enseignée dans l'Écriture. La notion omniprésente de ces sceptiques et critiques de cette doctrine est que l'élection est injuste. Quelque part, elle est injuste. Mais tout d'abord, nous voulons dire très clairement que Dieu ne doit pas être évalué par notre compréhension de ce qui est juste. Nous devons être les premiers à admettre que notre compréhension de pratiquement tout est un peu biaisée et tordue, et influencée par le péché qui est en nous. Dans le psaume 50, au verset 21, Dieu dit « Tu t'es imaginé que je te ressemblais, et ce n'est certainement pas le cas. » En Ésaïe 55, verset 8, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Et la clé est là. Dieu a des voix et des pensées qui sont incompréhensibles pour nous, impossibles à résoudre, insondables. Il y a une grande bénédiction dans le 11e chapitre de la lettre de Paul aux Romains, où il dit ceci, versets 33-36. « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller? Qui pourrait savoir comment Dieu pense? Qui pourrait être assez audacieux pour dire à Dieu comment il devrait penser? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. » Il est essentiel de comprendre que Dieu est saint, que sa nature est sainte, qu'il est infiniment et parfaitement juste, qu'il est moralement sans défaut et parfait, qu'il est la perfection. Tout en lui, de lui, pour lui, à lui et par lui est parfait. Donc, tout ce qu'il dit est juste. C'est ce qu'est la justice. Quelle est la règle de la justice de Dieu? Quel est le principe de la justice de Dieu? Qu'y a-t-il derrière ses jugements? Ce qu'il y a derrière est son propre libre arbitre, et absolument rien d'autre. Dieu détermine des choses basées sur rien d'autre que sa propre volonté libre, et quoi qu'il veuille est juste par définition, parce qu'il est juste. C'est juste parce qu'il le veut. Ce n'est pas parce qu'il voit que c'est juste qu'il le veut. C'est ce qu'il veut. Alors cela devient juste. William Perkins, un puritain, a dit « Nous ne devons pas penser que Dieu fait quelque chose parce que c'est bon et juste, mais plutôt que la chose est bonne et juste, parce que Dieu l'a fait. Le Créateur ne doit rien à la créature, qui ne peut pas comprendre ses voies, ne peut pas comprendre sa pensée, ne peut pas être son conseiller. Et de toute façon, comment Dieu pourrait-il être qualifié d'injuste pour avoir choisi de sauver certains, puisqu'aucun ne mérite d'être sauvé? Le salut n'a jamais été une affaire d'équité. Et c'est pourtant ce que les gens disent. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais je ne pense pas que l'on veuille que ce soit juste, ou bien. L'élection est enracinée dans la grâce pure. Elle est pleine d'une grâce suprême, et elle semble être la plus gracieuse envers ceux qui méritent le moins cette grâce. Il n'y a pas beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Allez voir dans 1 Corinthiens, chapitre 1, et c'est un bon endroit pour commencer. 1 Corinthiens, chapitre 1. Je n'avais pas l'intention de commencer là, mais lorsque j'étais assis là à chanter, ce passage m'est venu à l'esprit. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 26, nous lisons ceci. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel, c'est-à-dire votre appel divin au salut. Considérez votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Lorsque Dieu fait son choix, lorsqu'il est bon envers celui envers qui il veut être bon et miséricordieux, envers celui envers qui il veut être miséricordieux, c'est comme si sa grâce s'abaissait vers le moins méritant de tous, pour que personne ne puisse se vanter. Le verset 30 dit « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ Jésus, c'est grâce à Dieu, non par vous-même. Lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Quand nous venons aux personnes qui croient le message du Nouveau Testament, ils sont les pauvres et les rejetés, et les indignes, les faibles, et les filles de joie, les prostituées et les percepteurs d'impôts. Et Dieu passe à côté des puissants, des nobles, des religieux et des érudits, la plupart du temps. Ils sont peu nombreux. Le salut n'est pas une affaire de justice. C'est une affaire de pure grâce. Et Dieu a choisi de donner cette grâce à ceux pour qui cela peut sembler le plus injuste. Mais nous ne pouvons pas lutter avec ces choses intellectuellement, comme s'il allait y avoir une réponse dans notre raisonnement. Nous devons venir à la parole de Dieu, et nous devons regarder à ce que l'Écriture dit pour révéler la vérité de cette doctrine. Nous ne devons pas laisser cette doctrine devenir la victime de nos pensées corrompues et pécheresses, ni de nos raisonnements égocentriques et orgueilleux. Ainsi, comme toute autre vérité biblique, nous ouvrons simplement la Bible et nous nous soumettons à ce qu'elle dit. Et que cela soit douloureux ne change rien. L'enfer est une doctrine très douloureuse. Cela n'y change rien. Et, alors qu'il est peut-être difficile pour nous de le saisir, c'est plutôt dû à la faiblesse de notre esprit atteint par le péché, qu'à ce que nous pourrions estimer être juste. Tout cela doit être mis de côté, et nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Or, certains pensent que cette doctrine de l'élection est comme étrangère à Dieu, et comme étrangère à ses objectifs dans le monde. Mais c'est certainement une idée fausse. Ce n'est pas comme si la doctrine de l'élection avait surgi du Nouveau Testament, sans être apparue dans l'Ancien Testament. Après tout, clairement, Dieu a choisi Israël parmi tous les peuples de la terre. Parmi tous les peuples de la terre, Dieu a choisi Abraham, et l'a fait partir d'Ur en Chaldée, et a fait de lui le père d'une grande nation. C'est pourquoi Israël est appelé, psaume 105, verset 43, « ce qu'il a choisi ». Psaume 135, verset 4, dit « L'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. » Deutéronome 7, verset 6 et 14, verset 2 disent « L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Et Dieu a dit que ce n'était pas parce que vous étiez meilleur que tout autre peuple. Ce n'était pas parce que vous étiez plus attirant qu'un autre peuple. Dieu a dit que c'était parce que moi, de ma propre volonté, et décidé à l'avance de vous aimer, et pour aucune autre raison. Toi, Israël, mon élu. Dieu les appelle. On arrive dans le Nouveau Testament, et on a le même sorte de langage. L'Église est appelée l'élu, la choisie, et ce n'est pas un mot isolé quelconque en référence à l'Église. Il est répété. Dans Matthieu 24, dans ce discours du Mont des Oliviers, où notre Seigneur parle de son retour, il dit « Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Ceux qui ont été choisis, les élus. Ici, c'est un substantif, c'est un nom, c'est un terme qui décrit des croyants. Ce sont les élus, ceux qui ont été appelés. Cela veut dire ceux qui ont été choisis, les sélectionnés. C'est à cause des élus. » Deux versets plus loin, au verset 24. Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Ils ne sont pas appelés croyants, ils ne sont pas appelés chrétiens, ils sont appelés choisis. Et au verset 31, il enverra ses anges. Lorsqu'il viendra, il apparaîtra dans les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre, ses élus, élus par lui. C'est ainsi que le peuple de Dieu est désigné. Dans Luc 18, au verset 16, le Seigneur dit « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ?» De nouveau, les croyants sont appelés ses élus, choisis, sélectionnés. Dans Romains 8, de retour dans cette merveilleuse épître de Romains 8, verset 33. Ceux parmi nous qui sont sauvés, ceux de nous qui sont croyants dans la famille de Dieu, qui ont été rachetés, régénérés, réconciliés, Nous appartenons maintenant à Dieu. Nous avons été déclarés justes. La justice de Dieu nous a été imputée par la foi en Christ. Et le verset 33 dit alors, « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Et si Dieu déclare que nous sommes justes devant lui, personne ne peut réussir à accuser ses élus. De nouveau, l'Église est appelée l'élu. Dans chaque cas des derniers passages, nous sommes appelés les élus de Dieu, ses élus. Il ne s'agit pas du fait que nous élisons, mais que lui a élu. Dans Colossiens 3, verset 12, « Ainsi donc, dit Paul, en tant qu'être choisi par Dieu, en tant que ceux choisis par Dieu, littéralement, les élus de Dieu, les croyants, sont donc ceux que Dieu a choisis pour qu'ils lui appartiennent. Et dans l'Ancien Testament, il faut reconnaître qu'il s'agissait d'une nation de gens sur terre, un peuple temporel. Et dans le Nouveau Testament, les élus sont un peuple spirituel. Le Nouveau Testament est rempli de cet enseignement auquel on ne peut échapper. Dans Jean chapitre 15, et nous devons creuser un peu pour établir la clarté et l'étendue de cette désignation. Mais en Jean 15, verset 16, Jésus dit aux disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je ne sais pas comment on pourrait dire cela plus clairement. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. » Dans le 17e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 9, et nous reviendrons sur ce concept plus tard. Mais dans 17, verset 9, nous lisons ceci. Jésus, dans cette prière sacerdotale, c'est-à-dire dans le Saint des Saints de la Trinité, où le Fils est en communion avec le Père, il dit ceci. « C'est pour eux que je prie. Il prie pour les siens. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Écoutez cela, parce qu'ils sont à toi. Ils sont à toi, ils t'appartiennent. Tu les as choisis, tu me les as donnés. » Au 13e chapitre du livre des Actes, de nouveau le langage est sans ambiguïté. Dans Actes 13, au verset 48, voici un verset très difficile à avaler pour ceux qui résistent à cette doctrine. Paul et Barnabas prêchaient, et il est dit au verset 48, « Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, en entendant le message du salut. Ils célébraient la parole du Seigneur, et écoutaient ceci. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle firent quoi ? Crurent. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Revenez au 9e chapitre de Romains. Ce passage, encore, est fort et sans équivoque. Romains chapitre 9. Et on pourrait en fait commencer par les jumeaux du verset 11. Ésaü et Jacob. Les enfants n'étaient pas encore nés, et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste, conformément à son choix, et sans dépendre des œuvres. Comment aurait-il pu faire une œuvre quelconque ? Il n'était pas né, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, la mère des deux jumeaux, l'aîné sera assujetti au plus jeune. J'ai aimé Jacob, et j'ai détesté Ésaü. Waouh ! Avant même qu'ils soient nés, avant même qu'ils aient fait bien ou mal, seulement à cause du plan de Dieu selon son choix. C'est lui qui appelle. Il a décidé que l'aîné servirait le plus jeune. Il a aimé Jacob, il a détesté Ésaü. Vous direz, eh bien voilà qui est clair, parfaitement clair. Dieu a fait ce choix avant même qu'il soit né. Au verset 14, nous pouvons nous identifier avec ce qui est dit, n'est-ce pas ? Que dirons-nous donc ? Dieu serait-il injuste ? Cela me semble injuste. Il dit alors, « Que cela ne soit pas le cas, mais genoito dans le grec. Non, 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 certainement pas. C'est impensable. Pour Dieu, ce n'est pas quelque chose de nouveau de faire ce genre de choix. Ce n'est pas nouveau, puisqu'il dit à Moïse, déjà dans Exode 33, « Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. » Romains 9, verset 16. C'est-à-dire que le choix de Dieu ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le verset 18 dit, « Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. C'est inéluctable, absolument inéluctable. » Dans Romains 11, verset 5, en continuant ce survol du texte, nous lisons ceci. Il vient de parler d'Élie le prophète, qui pensait qu'il ne restait que lui. Et Dieu lui dit, verset 4, « Je me suis réservé 7000 hommes, qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Tu n'es pas le seul. Il y a 7000 fidèles. » Ensuite, le verset 5 dit, « De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste. Écoutez cela. Un reste de juifs croyants au présent. Alors que Paul écrit conformément à quoi ? À l'élection de la grâce, selon le choix de la grâce de Dieu. Dans 1 Pierre 1, verset 1. de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers. Certainement, car ce sont des croyants, et par conséquent, ils sont étrangers dans le monde, et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Écoutez ceci. À vous qui avez été choisis, vous qui êtes choisis, en parcourant les épîtres du Nouveau Testament, ce qui veut dire qu'en principe, vous commencez après le livre des Actes, avec le livre des Romains, et en parcourant toutes les épîtres jusqu'à l'Apocalypse, chaque fois que vous rencontrez le mot « appel » ou « appelé », cela se réfère au choix souverain d'élection, efficace, que Dieu fait pour appeler quelqu'un au salut. Les appelés sont ceux qui sont appelés efficacement, non seulement par un appel général, comme dans la proclamation de l'Évangile, où il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Chaque fois que l'appel est identifié dans les épîtres, c'est un appel efficace. 1 Corinthiens 1:9. Dieu est fidèle. Lui qui vous appelait à vivre en communion avec son Fils et Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes ceux qui sont choisis, ceux qui sont prédestinés, par conséquent ceux qui sont appelés. Dans Éphésiens chapitre 1, nous continuons. Dans Éphésiens 1 verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Comment cela se fait-il? Comment avons-nous été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ? Verset 4. Simplement parce que en lui, Dieu nous a choisis, c'est-à-dire en Christ, avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Voilà. Il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui à la fin, lorsque nous serons glorifiés. Verset 5. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Écoutez ceci. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Tout le vocabulaire ici dit que nous sommes choisis. Nous sommes choisis pour une sainteté et une perfection finale. Par amour, nous avons été prédestinés à être adoptés comme enfants par Christ. Tout cela à cause de l'intention bienveillante du propre libre arbitre de Dieu, sans autre influence, de manière qu'à la fin toute la louange et la gloire lui reviennent, pour sa grâce librement répandue sur nous. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 4, Paul écrit à l'église de Thessalonique, et écoutez comment il les identifie. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés. Et comment sait-il? Eh bien, verset 3, nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, par tout cela, bien-aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Vous êtes choisis. Vous êtes les élus. C'est manifesté par votre vie. Et un autre texte, 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Paul redit aux Thessaloniciens, « Nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. On ne remercie pas quelqu'un d'avoir été assez futé pour être venu à Jésus. On en remercie Dieu. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. » Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement, pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit, et par la foi en la vérité. Personne n'aurait jamais la capacité d'être sanctifié, et la sanctification débute au moment du salut, quand nous nous sommes séparés du péché. Il n'y aurait aucun espoir de sanctification, ni aucun espoir de foi dans la vérité, si Dieu ne nous avait choisis pour le salut dès le commencement. Et parce qu'il vous a choisi, le verset 14 dit, c'est pour cela, pour cette sanctification, cette foi en la vérité, qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce langage est cohérent. Il vous a choisi avant la fondation du monde, pour que vous soyez comme Christ. Il vous a choisi pour que vous soyez sans défaut et saint. Il vous a choisi pour que vous soyez à la fin dans la présence de sa gloire. Il vous a choisi pour que vous possédiez la même gloire que le Seigneur Jésus-Christ. Il vous a choisi pour que vous portiez son image, dans les lieux célestes. Il vous a choisi dans le passé. Il vous a appelé d'un appel puissant et efficace qui vous a réveillé de la mort et vous a accordé une compréhension claire de l'Évangile en vous donnant la foi qui sauve. Alors, on ne peut en aucun cas conclure de tout cela que c'est une idée ambiguë, n'est-ce pas? La Bible n'en doute pas. Et j'ai souvent dit, parce que j'ai répondu des milliers de fois à cette question au cours de ma vie, je l'ai discuté, j'en ai débattu, je l'ai fait en privé et même en public. Et j'ai souvent dit, si vous croyez la Bible, vous croyez la prédestination. Si vous croyez la Bible, vous croyez que Dieu a choisi qui serait sauvé, Si vous croyez la Bible, vous croyez que Dieu a déterminé qui serait sauvé et qu'il a déterminé que le salut atteindrait sa conclusion finale lorsqu'ils seront glorifiés au ciel. Si vous croyez la Bible, vous croyez que Dieu appelle efficacement ceux qu'il choisit et leur donne la foi. Et pourtant, avec toute cette clarté, certains résistent encore à cette doctrine. Regardez à Romains 9, et je veux que vous sachiez comment Dieu traite cette question. C'est si bien. Revenez là où nous nous sommes arrêtés au verset 18, où il parle de Jacob et d'Ésaü, et comment Dieu a déterminé cela avant même qu'il soit né. Ensuite, au verset 19, l'opposant imaginaire qui permet à Paul, comme qui dirait, de discuter avec lui-même et de continuer son enseignement. Son opposant imaginaire dit, « Tu me diras, pourquoi fait-il encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Je veux dire, si tout est fixé et ficelé, si tout est déterminé par choix divin, avant même que quelqu'un soit né, si c'est Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce, et qu'il a compassion de qui il veut avoir compassion, si rien ne dépend de la volonté, ni des efforts de l'homme, si tout dépend de Dieu, alors comment peut-il faire des reproches à qui que ce soit? Comment peut-on me blâmer de ne pas croire? Comment suis-je censé résister à sa volonté souveraine et éternelle? C'est une réponse plutôt raisonnable, ne pensez-vous pas? Et c'est toujours l'arête qui reste en travers de la gorge des gens, quant à la doctrine de l'élection. Et Paul l'a anticipé. Vous allez dire, ce n'est pas juste, parce qu'alors tu ne peux pas me condamner à l'enfer. Tu ne peux rien me reprocher. Comment aurais-je résisté à sa volonté? Le verset 20 donne une réponse stupéfiante. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? Ferme ta bouche. Cela ne clarifie rien du tout. Pour qui te prends-tu? Accuses-tu Dieu de punir injustement des pécheurs? Accuses-tu Dieu de condamnation injuste? Accuses-tu Dieu de faire mal? Tu ferais mieux de fermer ta bouche avant d'ajouter un mot de plus. Et l'illustration est étonnante. L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Lorsqu'un potier fait un vase, le vase ne parle pas. Le vase ne dit pas « Non, je ne veux pas avoir cette forme. Donne-moi une autre forme. Ce n'est pas juste. Je voudrais être comme ce vase-ci, ou comme ce vase-là, ou encore comme cet autre vase. » Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? C'est stupéfiant. Ne vous avisez pas de remettre Dieu en question. Dieu est le potier. Vous êtes l'argile. L'argile est bien inférieure au potier. C'est une boue inanimée. Elle n'a même aucun droit de nourrir l'idée de parler au potier, quelle que soit la profondeur de l'abîme entre le vase et le potier. Cet abîme est encore plus profond entre toi et Dieu. Le potier, au verset 21, n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour lui donner la forme qu'il veut? Ensuite, le verset 22 est vraiment très très fort. Que dire? Ou bien nous pourrions dire, et alors que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout prêts pour la perdition. Alors quoi, si Dieu veut démontrer sa colère, n'a-t-il pas le droit de manifester sa colère? Ne fait-elle pas partie de sa gloire? Ne peut-il pas mettre en avant sa colère? Il est Dieu. Dieu ne peut-il pas faire connaître sa puissance dans son jugement, dans sa colère, dans le fait qu'il condamne? Oui, il le peut. Mais notez, s'il vous plaît, comment le verset 22 se termine. Il est dit, il a supporté avec une grande patience des vases de colère, passifs, tout prêts pour la perdition. Non qu'il les ait préparés pour la destruction. Dieu ne lit pas la liste des humains qui viennent en disant, « Très bien, toi tu vas au ciel, toi tu vas en enfer, et vous trois, vous allez en enfer, et vous allez au ciel. Les 10 ici, vous allez en enfer, et vous là, vous allez au ciel. » La Bible n'enseigne pas cela. La Bible enseigne que tous les hommes sont en route vers l'enfer, et Dieu a choisi d'en sauver certains, et il a supporté les autres qui poursuivent ce chemin-là, pas à cause de quelque chose que Dieu aurait fait, pas à cause d'un décret que Dieu aurait prescrit individuellement pour eux, mais parce qu'ils continuent dans leur péché et qu'ils sont pleinement coupables. Dieu a tous les droits de montrer sa colère, et il est tout autant glorifié dans sa colère qu'il l'est dans sa miséricorde. Et le verset 23 dit, il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion. Ici, les verbes sont actifs. Il fait des vases de compassion. Il supporte ceux qui sont prêts pour la destruction. Dieu est actif dans la rédemption. Il est passif dans la réprobation. Dans Apocalypse 19, il nous est dit que le Seigneur règne. Vous savez, nous entendons cela, et nous pensons à un chant, vous savez, l'Éternel règne, l'Éternel règne. Je ne sais pas si nous savons vraiment de quoi nous parlons lorsque nous le disons. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il prend chaque décision qui est prise, essentiellement, à propos de tout. Il règne, en tant que tout-puissant. Il domine dans les armées célestes. Et personne ne peut arrêter sa main, ni lui dire « Que fais-tu ?» Il accomplit toutes ses œuvres, selon le conseil de sa propre volonté. Il est le potier céleste qui saisit notre humanité déchue, comme un bloc d'argile. Et avec elle, il nous façonne en des vases d'honneur, et il supporte ceux qui se façonnent en vases de déshonneur. Il est celui qui décide et détermine la destinée de chacun, et celui qui contrôle chaque détail de la vie de chaque individu, ce qui n'est qu'une autre manière de dire que Dieu est Dieu. Et je vous dirai que ce qui me répugne le plus est l'espèce d'idée que Dieu est constamment contrefait par Satan. C'est du blasphème. Mais cette doctrine de l'élection n'est pas facile à accepter. Certains parmi vous sentent une petite douleur à l'esprit à ce moment-là. Cette doctrine fait un peu mal. En fait, si j'arrive à vous faire vous sentir un peu mieux, c'est si douloureux que la seule raison pour laquelle quiconque y croit est parce qu'elle se trouve dans la Bible. Nous ne la fabriquerions simplement pas. Personne, pas un, aucun comité n'inventerait une telle chose. Nous n'inventerions pas la doctrine de l'enfer éternel non plus, parce que ce sont des choses qui sont en conflit avec les voies de l'esprit charnel. Ils répugnent aux sentiments du cœur charnel. Tenez, je ne comprends pas la Trinité. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas vraie. Je ne peux pas comprendre la Trinité. Je ne sais pas ce que signifie être trois personnes et pourtant une seule. Je ne peux pas comprendre la naissance virginale. C'est incompréhensible. Je ne peux pas comprendre le caractère de Christ, sa nature. Il y a tant de choses qui me sont incompréhensibles, mais je les crois parce qu'elles sont révélées dans l'Écriture. Et cela ne me gêne pas qu'il existe ici une certaine tension. Cela ne me gêne même pas que la Bible dise « Que celui qui veut ». La Bible dit aussi que « Jésus pleura sur Jérusalem » et dit « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Vous direz « Bon, qu'est-ce que c'est tout ça ?» Cela veut simplement dire que ceux qui veulent venir peuvent venir, et quiconque vient sera reçu. Vous direz « Comment cela s'accorde-t-il avec l'élection ?» Je ne sais pas, mais n'êtes-vous pas réconforté par le fait que je ne sache pas, parce que si ma pensée était comme la pensée de Dieu, ce serait atroce. Il y a tant de choses que je ne sais pas. Si je vous posais une question toute simple, si je vous dis « Qui a écrit le livre des Romains ?» Que direz-vous ? Vous ne pouvez même pas dire ça, ou bien, vous voyez, j'ai entendu quelques timides Paul, et puis tout à coup, vous vous retenez, parce que vous savez que ce n'est pas la réponse complète, pas vrai ? Vous dites, eh bien, le Saint-Esprit l'a écrit. Alors, était-ce Paul ou le Saint-Esprit ? Eh bien, tous les deux. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Paul a écrit un verset, le Saint-Esprit un verset, Paul un autre verset ? Comment comprenons-nous cela ? Vous dites, chaque mot est sorti de la pensée de Paul ? Chaque terme du vocabulaire de Paul ? Chaque mot est-il sorti de son cœur ? Absolument. Mais également, chaque mot est venu du Saint-Esprit. Comment est-ce possible ? C'est incompréhensible et insondable pour moi. Je peux vous poser une autre question, puisque vous avez si bien réussi pour celle-ci. Jésus était-il Dieu ou homme ? Les deux. Oui. La bonne réponse est oui. Mais comment peut-on être 100% Dieu et 100% homme ? Vous ne pouvez pas être 200% de quelque chose. Comment peut-on être tout à fait homme et tout à fait Dieu ? Cela dépasse notre entendement. Lorsque nous disons 100% de quelque chose, c'est tout. Mais si on est entièrement homme, alors on ne peut être entièrement Dieu. Si vous êtes totalement Dieu, vous ne pouvez pas être entièrement homme, et pourtant lui, il l'était. Je veux dire, on peut continuer longtemps ainsi. Si je vous pose une autre question simple, qui vit votre vie chrétienne ? Que direz-vous ? Allons, vous devez le faire tous les jours. Qui vit votre vie chrétienne ? Vous dites, c'est moi. Vraiment ? Vraiment, c'est vous ? Vous dites, non, ce n'est pas moi. Vous dites, c'est le Christ qui le fait. Alors, nous allons tout lui reprocher. Je veux dire, nous ne pouvons pas vous donner le crédit des bonnes choses, et nous ne pouvons pas le blâmer pour les mauvaises choses. Alors, nous avons un problème. Vous savez, il y avait les piétistes qui disaient, je vais frapper mon corps et me discipliner pour vivre ma vie chrétienne. Puis il y avait les quiétistes, vous savez, tels les Quakers, qui disaient, lâchez prise et laissez Dieu faire. Et ils sont entrés dans le monde passif. Et le mouvement de Keswick est sorti de là, et la vie crucifiée, et toutes ces vues quiétistes étranges. Qui vit votre vie chrétienne ? Vous dites, eh bien, si c'est quelque chose de faux, c'est moi. Quelque chose de juste, c'est lui. Et on dit que c'est un mystère inimaginable. L'apôtre Paul a dit à ce sujet, j'ai été crucifié avec Christ. Galates 2, verset 20. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, il ne savait pas non plus. John Murray a dit il y a longtemps que dans chaque doctrine majeure de la Bible, il y a un paradoxe apparent, il y a un paradoxe irrésolu qui est transcendant. Et cela signifie que Dieu est Dieu, et le fait qu'il y ait tant de ces choses dans l'Écriture veut dire que l'Écriture n'a pas été écrite par des hommes. Je connais des éditeurs, ils règlent les choses de cette façon. Donc le fait que nous croyons que Jésus est Dieu ne veut pas dire que nous ne croyons pas qu'il est homme. Si nous croyons qu'il est né d'une mère humaine, cela ne veut pas dire que nous ne croyons pas qu'il est né de Dieu. Si nous devons persévérer dans notre foi, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas en sécurité. Si nous croyons que la Bible a été écrite par des auteurs humains, cela n'exclut pas que nous croyons aussi qu'elle a été écrite par le Saint-Esprit. Le fait que nous devons nous discipliner pour vivre la vie chrétienne ne veut pas dire que nous croyons que Christ n'est pas en nous. Et le fait que nous croyons la doctrine de l'élection ne veut pas dire que nous ne croyons pas en la responsabilité humaine. Ce sont des paradoxes apparents que nous ne pouvons résoudre, mais le risque existe de détruire la vérité et d'apporter un compromis rationaliste. C'est dangereux. Ainsi, l'inéluctable enseignement de l'Écriture est la doctrine de l'élection. Même la préscience dont Pierre parle, 1 Pierre 1, préscience, choisie selon la préscience de Dieu. Regardons cela juste un instant. Je vais terminer ceci, et nous reprendrons le texte la prochaine fois. Mais dans 1 Pierre 1, verset 1, il dit que nous sommes choisis, vous qui avez été choisis. Ensuite au verset 2, conformément à la préscience de Dieu. On dit très bien, c'est la clé, juste là, selon la préscience de Dieu. Et immédiatement on dira, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu sait ce que vous allez faire, n'est-ce pas? Avant que vous le fassiez, c'est la préscience. Et Dieu, il y a bien longtemps, dans l'éternité passée, parce qu'il sait tout ce qui va arriver, a consulté les annales de l'histoire, et il a dit, « Ah, je vois ce qui va arriver, que John MacArthur va naître dans cette famille chrétienne. Et, il va entendre l'Évangile, et il va croire l'Évangile, donc je vais le choisir. Vous pensez que c'est bizarre? C'est ce que la plupart des chrétiens croient. C'est ce que la plupart des chrétiens croient et enseignent. Mais c'est comme prévoir ce que les gens feront. Or, le problème avec ceci, c'est comment ces pécheurs morts vont se ressusciter eux-mêmes pour faire cela sans l'aide de Dieu. Vous répondez à cette question. Comment ceux qui sont totalement corrompus, totalement aveugles, totalement morts, vont-ils arriver là où ils prendront la décision du salut? Comment le feront-ils? Ils ne le peuvent pas. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitué à faire le mal? Comment est-ce que cela pourrait se faire? Si Dieu ne fait que regarder pour voir qui prend cette décision, alors son élection n'est pas basée sur son propre libre arbitre. C'est basé sur leur mérite, n'est-ce pas? C'est basé sur leur mérite. Les bons vont me choisir, alors je vais les choisir. Ceci n'a rien à voir avec tous ces versets que nous avons lus. Absolument rien à voir. Et à propos, il est dit que nous sommes choisis selon la préscience de Dieu. Mais je voudrais que vous regardiez au verset 20, verset 19. Qui est mentionné au verset 19? Christ. Très bien. Alors attention. Christ, prédestiné avant la création du monde. Oh, nous avons un problème. Si la préscience de Dieu signifie que Dieu regarde loin et voit ce qui va arriver au verset 2, alors prédestiné doit vouloir dire la même chose au verset 20. Correct. Donc, est-ce que cela signifie que Dieu a vu le cours de l'histoire et il a dit « Oh, regardez ça, Christ va donner sa vie. Alors, s'il va faire cela, je ferai de lui le sauveur. » Je veux dire, clairement, la préscience ne peut vouloir dire cela, parce que Jésus a dit qu'il était venu non pour faire sa propre volonté, mais celle de son Père. C'est pourquoi il est appelé Christ, mon élu. Vous lirez. Alors, que signifie préscience? C'est pronostic, prognosis. Notre mot pronostic vient de là, utilisé en médecine. C'est un choix prédéterminé. C'est un choix prédéterminé. Christ était prédestiné, c'est-à-dire qu'il était connu de Dieu dans le sens intime comme le Sauveur, le Rédempteur, dès avant la fondation du monde. Il parle de la forme intime de connaissance, comme il est dit dans l'Ancien Testament. Israël, je vous ai choisi, vous seul. Amos 3, verset 2. Cela veut-il dire que les Juifs sont le seul peuple que Dieu connaisse? Non. C'est le genre de connaissance que vous avez dans la Genèse. Caïn a connu sa femme et lui a donné un fils. Cela ne veut pas dire qu'il connaissait son nom. Cela ne veut pas dire qu'il savait qui elle était. Cela signifie qu'il avait une relation intime avec elle et qu'il en est résulté la naissance d'un fils. Jésus a dit la même chose dans Jean 10. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Il parle d'une relation d'amour intime. Le choc fut grand lorsque Marie fut enceinte et que Joseph ne l'avait jamais connu. Nous en parlons même de nos jours. Nous utilisons l'expression de la connaissance charnelle, signifiant une union sexuelle, une connaissance intime. Ce que vous avez ici dans la préscience, c'est une intimité prédéterminée. Tout comme le Père avait une relation prédéterminée avec le Fils, qui l'amènerait à être le sacrifice pour le péché, à verser son sang précieux comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. De même, le Père avait une relation prédéterminée avec ceux qu'il a choisis. La préscience est un choix délibéré. Un autre passage clôt l'affaire. Acte 2, verset 23. Et je terminerai avec ça, promis. Il y a tant à dire. Acte 2, verset 23. Ceci clôt toute discussion, s'il y en avait encore, sur le sujet de la préscience. Pierre se lève au verset 22 et il prêche. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme, verset 23, ce Jésus, vous a été livré. Il croyait qu'il l'avait crucifié. Il pensait que c'était leur projet. Non, non. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini. Et quelle phrase suit ? Et la préscience de Dieu, Dieu le savait d'avance. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Vous êtes coupable. Vous êtes coupable. C'est vous qui l'avez fait. Vous l'avez fait de votre propre volonté. Mais Dieu avait déterminé d'avance que cela se passerait. C'était prévu dans son plan, prévu d'avance, et dans sa préscience. C'est-à-dire que déterminer d'avance, savoir d'avance, n'est pas simplement avoir des informations sur ce qui va arriver, mais c'est le prédéterminer. Nous comprenons donc que la Bible est très claire sur la doctrine de l'élection, ce qui soulève la question impérieuse de « Pourquoi Dieu l'a-t-il fait ?» Et on répondra à cette question la prochaine fois, dans ce que je crois être la compréhension de la rédemption la plus irréfutable, la plus puissante, la plus complète, qu'il soit possible de connaître. Et je pense que si vous êtes là dimanche prochain au soir, votre esprit ne sera pas seulement rassasié, mais votre âme aussi sera rassasiée, et il en résultera une plus grande joie en votre salut que jamais auparavant. Mais nous gardons cela pour la prochaine fois. Prions. Père, nous nous réjouissons de cette glorieuse vérité, époustouflée réellement, que tu nous aies choisis. Et nous nous posons la question, pourquoi nous ? Pourquoi nous ? Nous te remercions, ô Dieu, pour ton salut gratuit, et nous te remercions de ce que ce salut, bien que nous ne puissions pas le comprendre, est ouvert à chacun qui regarde à Christ et qui croit en lui. Que celui qui veut vienne. Comprendre comment tu harmonises cela avec ton élection souveraine t'appartient, pas à nous. Mais nous savons que Jésus pleure sur ceux qui ne veulent pas venir. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas embrassé Christ. Veuille réveiller leur âme morte. Donne la vue à leurs yeux aveuglés. Qu'ils puissent irrésistiblement voir Christ devant eux et courir vers lui pour être sauvés. Nous prions en son nom. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.